93. La radio du sport à Québec. Entrevue, analyse, faits marquants. Le monde du sport passé en revue. Voici l'avant-match avec Dan Pou. L'avant-match, c'est la référence sportive à Québec.
OK, ça a été longtemps 0-0. OK, l'avantage numérique fonctionne pas comme il devrait. Carey Price, 315e victoire. Non, le plus important, c'est le 2 points dans le cahier Canada.
C'est parti, le Canadien est de retour à domicile. Et ça remonte à Shaw. Il lance le goal! Il a fait dernier le tir de Shaw. Et c'est 1-0. En zone offensive, passe en retrait. Kolak tire le goal! Et le Canadien fait 2-0. Passe pour Attanasio entre les défenses. Les jeux Kolak, il tire le goal!
Andreas Attanasio.
Et c'est 2-1. Les Red Wings ne sont pas morts. Dégagement à l'autre bout. Price intervient après la 315e victoire en carrière de Carey Price, lui permettant de dépasser Jacques Plante.
Carey Price!
Il est accueilli par tous ses coéquipiers au centre de la patinoire. La marque finale ce soir au Centre Bell. Le Canadien balaie les Red Wings avec une 4e victoire contre eux. 3-1.
Vous écoutez l'avant-match au FM 93 avec Dan Pou.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 2059. Vous l'avez entendu, Martin McGuire a dit « Le Canadien a balayé les Red Wings de Détroit cette année ». Absolument. Si le Canadien veut participer aux séries, il se doit de balayer des équipes comme les Red Wings de Détroit, qui sont en, j'allais dire, en éternelle reconstruction. Il faut que je sois prudent quand même. Ça a été une des meilleures équipes de la Ligue. Faut pas que je parle d'éternelle reconstruction, mais disons que depuis 2-3 ans, ça va plutôt mal leur affaire, mais c'était prévu comme ça. Si ça va encore mal dans 2-3 ans, là, on dira que la reconstruction s'éternise. Mais pour l'instant, c'est normal que les Red Wings soient ordinaires. C'est surtout normal que le Canadien les ait battus hier 3-1. Bon, là, il y a des partisans du Canadien aujourd'hui qui étaient inquiets, qui sont venus me voir. « Hey Dan, ça a été 0-0 longtemps, j'ai eu peur. » Mais là, tu sais, faut pas avoir peur d'avoir peur non plus. Là. L'important, c'est que le Canadien a ajouté 2 points dans son cahier Canada et le Canadien continue d'être en lutte pour une place en série. Maintenant, à 2 points des Hurricanes de la Caroline, les Hurricanes ont un match en main. Ils sont 5 points devant les Flyers. Les Flyers ont également un match en main. À égalité avec Columbus, parce que Columbus l'a emporté 7-4 hier sur les Bruins. C'était 5-1 à un certain moment donné dans le match pour les Blue Jackets. Les Bruins sont revenus, mais Columbus a gagné 7-4. Le Canadien, la façon dont il gagne, rendu au match 71, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment le 2 points. Personne à l'approche des séries pour analyser qui va gagner dans telle ou telle série. Personne va dire « Ouais, mais le 12 mars contre Détroit, ça avait été tough. » Personne. On n'aura pas le temps d'analyser ça.
Tu vois des gros matchs qu'on a échappé.
Ça, c'est vrai, Claude. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien placé dans l'émission. Claude n'en revient pas que son équipe ait échappé des gros matchs dans les dernières semaines. Et c'est ce qui fait le plus mal aux Canadiens à date d'aujourd'hui. Le Canadien, il y a 2 semaines, jour pour jour, était première équipe repêchée. Pendant ce temps-là, la meilleure équipe de la division métropolitaine, c'était les Islanders de New York.
Ça n'a pas été une cédule facile les 2 dernières semaines. Beaucoup de voyages, beaucoup de matchs sur la route.
Ça, c'est vrai. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour le Canadien, mais le Canadien a quand même perdu 9 de ses 15 derniers matchs. Le Canadien a perdu 9 de ses 15 derniers matchs. Je comprends que Claude Julien dit que ça n'a pas été un calendrier facile, mais toutes les équipes passent au travers du même calendrier. C'est juste pas dans les mêmes dates. Mais ça a changé depuis 2 semaines. Au lieu d'être les Islanders, l'adversaire potentiel de première ronde, mais là maintenant c'est Tampa Bay. C'est pas mal plus complexe. Demain, parlant des Islanders, le Canadien va être à Nassau Coliseum pour affronter justement les Islanders qui en arrachent ces temps-ci et qui se retrouvent maintenant 2e derrière les Capitals de Washington. Et pas très loin derrière, il y a les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins ont gagné hier 5-3 devant les Capitals, justement. Ben là, ça se corse pour les Islanders qui pourraient même finir 3e de leur division s'ils ne gagnent pas autant de matchs. Ils pourraient même être première équipe repêchée. Dans la métropolitaine, vous avez remarqué autant que moi, on pourrait se retrouver avec un classement Washington, Pittsburgh et Caroline pour les 3 meilleures équipes de la division. Sincèrement, ça se corse. Si ça vous tente de jouer un match de hockey avec nous au Centre Vidéotron, le 14 avril, c'est un dimanche, inscrivez-vous en grand nombre sur fm93.com. Vous pourriez gagner un laissez-passer double. Vous allez inviter un de vos amis de Ligue de garage, vous allez venir avec nous. Un gros merci au Rempart de Québec et à Budweiser de faire cette promo-là avec nous. Dimanche, le 14 avril, on s'en va jouer au Centre Vidéotron.
L'avant-match. Voici Simon Gagné.
Salut Simon, comment vas-tu?
Ça va bien, toi, Dan?
Oui, ça va bien. Ton article cette semaine sur LNH.com fait référence aux joueurs du Canadien qui doivent se mettre des œillères. Explique ça à nos auditeurs.
C'est un beau titre, hein? Écoute, c'est dans le fond, là, il reste 12 matchs pour le Canadien. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que c'est malheureusement, là, quelques semaines, il y avait leur destin entre leurs mains. Il y avait le choix de rester à la position qui était ou s'améliorer dans le classement. Présentement, son sortis des séries, doivent juste se concentrer sur leur match qu'on joue, essayer de les gagner, puis espérer que les équipes en avant d'eux autres, comme Columbus, Pittsburgh, Caroline, en perdent une coupe, mais pas trop regarder ça non plus. Fait que vraiment okay. Y aller match un match à la fois, puis dans mon temps, on faisait des séries. Au lieu de regarder 12 matchs d'une shot, on se dit, regarde, on va faire des séries de 3 ou 4 matchs. On va essayer d'en gagner 3 sur 4 ou gagner 3 sur 3. Pour pas trop se mettre de pression, pas trop regarder trop en avant, mais d'y aller un match à la fois, puis pas trop regarder ce qui se passe alentour.
OK. Est-ce que le Canadien, qu'est-ce que tu aimerais voir du Canadien différent dans les 12 derniers matchs?
Ben, écoute, faut pas se cacher que Carey Price doit gauler à son meilleur. Ça commence avec Carey Price, par la suite les défenseurs, mais la chose, je pense, qui fait mal aux Canadiens, puis on l'a vu beaucoup sur la route. Dans les derniers matchs, à part hier soir, là, Domi a pris les, je veux pas dire a pris les choses en main, mais a joué comme qu'il est capable, puis je pense qu'il est capable de mieux jouer. C'est les meilleurs joueurs du Canadien doivent être les meilleurs, tous les soirs jusqu'à la fin de l'année. Puis présentement, si tu oublies le match d'hier, là, les autres matchs, c'était les meilleurs joueurs des autres équipes qui étaient les meilleurs sur la glace, puis les meilleurs joueurs du Canadien, on les voyait pas. Fait que, pour moi, là, si les Canadiens veulent faire les séries, ils vont devoir compter sur leurs meilleurs joueurs. À ce qu'ils soient là à 100% puis qu'ils jouent leur meilleur hockey de la saison.
OK. L'avantage numérique, on dit toujours, ça prend un bon gardien puis un avantage numérique qui a de l'allure. Le bon gardien, le Canadien, l'a, mais l'avantage numérique, ça fait pitié.
Oui, mais écoute, c'est sûr, j'aurais pu dire ça aussi, que l'avantage numérique, j'aimerais ça qu'elle marque plus de buts. Écoute, la chose que le Canadien doit faire, c'est le prêt. Tu sais, mais à ce temps-ci de l'année, on pratique plus beaucoup. Mais tu sais, les fois que le Canadien embarque sur la glace, que ce soit en deux games ou la journée du match, le morning skate qu'on appelle, le pratiquer, faire beaucoup de vidéos avec ces gars-là, parce que cette chose-là du hockey est tellement importante dans les séries, peut faire la différence. Tu sais, que ton gardien, on le dit souvent, peut te garder dans le match toute la game, puis t'arrives, t'as un party. T'es ordinaire toute la game, ton équipe est ordinaire, mais t'arrives avec un power play, puis bang, tu scores un gros but, puis c'est le même, tu gagnes la game. Fait que, puis 5 contre 5, c'est tellement dur de marquer des buts maintenant à 5 contre 5 que tu peux prendre avantage avec ça lorsque t'es à 5 contre 4 ou 5 contre 3. Fait que c'est sûr que c'est une facette du jeu que le Canadien doit essayer de trouver quelque chose d'ici la fin de la saison, là, s'ils vont dans les séries. Là.
OK. Est-ce que toi, tu as des exemples dans ta carrière de situations où, pour l'avantage numérique particulièrement, vous avez essayé de quoi qui, à première vue, tu te disais, voyons, ça n'a pas d'allure, mais finalement, ça a fonctionné. Comment on vient qu'à améliorer un avantage numérique dans la Ligue nationale, Simon?
Ben, c'est sûr, on a un entraîneur qui s'occupe de ça, puis c'est pas l'entraîneur-chef. Parce que dans les équipes que j'avais, là, à part à Tampa Bay, là, c'était Guy Boucher qui s'occupait de l'avantage numérique, mais à Philadelphie, c'était Joe Marlin qui s'occupait de ça. Puis, tu sais, on avait des meetings, juste les joueurs qui étaient sur l'avantage numérique. Puis, tu sais, oui, ils amenaient ses idées, mais en même temps, ils nous demandaient comment qu'on voyait ça, puis qu'est-ce qu'on pense qui serait bon pour marquer des buts. Fait que, tu sais, nous autres, ici, on avait notre input, comme qu'on dit en anglais, pour essayer de trouver un moyen de débloquer l'avantage numérique. Je savais mes forces. Mettons, Daniel Briard savait ses forces. On savait un petit peu, on avait un petit jeu qu'on faisait, puis ça marchait souvent. Puis là, le reste du temps, ben, c'est une chance de marquer ou tu sais c'est un moment donné, c'est aux joueurs aussi là, de trouver le fond du filet là, tu sais tu peux faire les petits tactos comme hier, il y a un super de beau jeu, le puck arrive dans ce lot parfaitement à Philippe Dano, puis Philippe Dano il lance direct dans le crest de Jonathan Bernier, fait que là c'est, un moment donné, c'est aux joueurs de mettre ça dans le net, tu sais. Mais écoute c'est de la pratique, puis c'est sûr je le dis souvent avec toi Dan, la confiance, c'est la confiance. Présentement, quand le Canadien s'en va sur l'avantage numérique, ils ont pas confiance et c'est long bouger la rondelle, puis la plupart du temps, c'est bouge la rondelle rapide, puis un lancer au filet, mettre du trafic, puis tu sais, des fois, il te faut un, on dit ça en anglais, un ugly goal, un but chanceux, puis le reste va débloquer, fait que c'est souvent ça qu'on faisait, on lançait n'importe où, puis à un moment donné, ça rentrait, puis par la suite, de la confiance embarque, puis les choses commencent à mieux aller.
Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui s'interrogent depuis 2-3 matchs de la présence de Jordan Wheel sur l'avantage numérique. Qu'est-ce que tu leur réponds?
écoute, je pense que là, sont rendus à essayer pas mal plein de choses, le Canadien, vu que l'avantage numérique ne marche pas. C'est sûr que moi, j'aimerais mieux voir des joueurs de talent sur l'avantage numérique, mais il y a des entraîneurs qui veulent voir des joueurs combattistes devant le filet, un genre de Gallagher, des gros bonhommes. Des fois, tu disais, hey, qu'est-ce qu'il fait sur l'avantage numérique? Mais c'est aux entraîneurs qui, des fois, qui aiment avoir un joueur comme ça, qui sa job, c'est juste d'aller devant le filet, bien cacher le gardien de but, être bon sur... Il y en a qui sont super bons à dévier les rondelles. Est-ce que Will est très bon pour dévier la rondelle? Je sais pas, j'ai jamais vu pratiquer, mais les gars sont vraiment habiles, fait que peut-être que c'est une des spécialités à lui devant, aller devant le filet puis faire dévier des rondelles. Comme je te dis, le Canadien, ça marche pas, fait qu'il essaie plein de choses présentement.
Mais Jordan Will, à sa défense, Simon, c'est pas un joueur de talent chez le Canadien parce qu'il arrive dans une transaction contre Michael Chaput, mais dans la Ligue junior de l'Ouest, il a fait des saisons de 120 et 130 points. C'est un gars qui a déjà fait beaucoup de points, là.
Oui, mais tu sais, c'est ça, tu viens de dire, le monde pense que c'est pas un joueur de talent dans la Ligue nationale à cause que on va dire qu'il était troisième, quatrième ligne, mais c'est un joueur talentueux dans la ligne junior majeur, puis il en a marqué des buts. Fait que le talent est là pareil, c'est juste que on l'utilise pas assez sauce-là, c'est comme qu'on dit. Puis comme je te dis, le Canadien cherche. Claude Julien a eu les informations que ce gars-là probablement eu des bonnes saisons, était très bon sur l'avantage numérique à telle place. Puis on s'est dit, regarde, on n'a rien à perdre, faut essayer quelque chose présentement, même avec nos meilleurs joueurs, on marque pas. Fait qu'on va essayer avec Will, puis on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais là, présentement, ben, ça marche pas plus. Là.
OK, les Flyers sont de retour dans la course. C'est impressionnant, la séquence des Flyers. As-tu des échos? Parles-tu encore à des joueurs?
Ben, écoute, le qu'est-ce que j'entends, c'est que les gars ont vraiment beaucoup de plaisir, jouent avec beaucoup de confiance. À toutes les fois qu'ils jouent un match, ils pensent pas à perdre, ils pensent qu'ils vont gagner. Puis, écoute, leur avantage numérique joue bien, leurs bons joueurs jouent bien. Gardien de but, c'est encore coussi que ça, mais là, Hart va revenir. Fait que c'est une bonne nouvelle pour les Flyers, mais encore là, tu sais, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est gagner des matchs, puis espérer que se croiser les doigts, que les équipes se mettent à mal jouer en avant d'eux autres, puis perdre des matchs, parce que il va manquer de temps, puis malheureusement, ben, ils ont un mauvais début de saison, puis ça va peut-être leur coûter une place dans les séries, mais on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Peut-être qu'il y a des équipes qui vont choquer à la fin, comme Columbus puis le Canadien, puis les Flyers vont continuer à gagner, puis ils vont peut-être rentrer vraiment à la porte par la porte en arrière, mais moi, c'est sûr, tu le sais, je regarde à tous les matchs, c'est l'équipe préférée à mon gars, puis mon gars, il croit au bout, à toutes les fois, je dis, hey, papa, on s'approche des séries, il croit au bout, mais j'essaie de le ramener terre à terre, j'ai Matt, et ça va être tough, là. Je veux pas que tu penses que les Flyers vont faire les séries, mais ça va être tough, fait que, on va voir.
Simon, tu sais, tu viens de parler de confiance pour les Flyers. On le sait, les Hurricanes de la Caroline s'amusent à chacune de leurs victoires à domicile avec des petits sketchs, puis ils jouent au baseball, puis ils font de la lutte, puis du limbo, puis ils s'amusent. Est-ce que tu penses que ça a un lien, les cérémonies d'après-match des Hurricanes avec leur rendement sur la patinoire, est-ce que ça a resserré l'esprit d'équipe, puis cette équipe-là, à chaque match ou presque, elle se sent invincible?
Ben, je veux peut-être pas dire invincible, mais ils ont du fun. Puis tu sais, au hockey, là, des fois, on oublie là, quand tu pars des matchs ou ça va que ça, que c'est une game, c'est le fun. On a appris à jouer au hockey, on était petit cul, on avait du fun, c'est une game. Puis des fois, on oublie, c'est une game. Puis je pense que les Hurricanes, puis et je pense que ça vient d'un gars comme Justin Williams, puis Rod Brind'Amour, des gars qui ont joué ensemble. Je connais bien Justin. Tu sais, c'est un gars qui a essayé de trouver quelque chose pour relaxer les gars. C'est une jeune équipe, mais de relaxer les gars, d'avoir quelque chose de spécial cette année qui va regrouper les gars, regrouper les fans aussi. Puis présentement, ben, je suis persuadé que tous les joueurs, peu importe qu'est-ce qui se passe cette année avec les Hurricanes, qu'est-ce qu'ils font dans les séries, tous les joueurs dans 10-15 ans vont se rappeler de cette année-là spéciale des Hurricanes, puis des choses qu'ils faisaient après les matchs. Puis ça, t'as du fun. Quand t'as du fun au hockey, tu viens à l'aréna, c'est le fun. Tu viens aux pratiques, c'est le fun. Ben, c'est certain que ça va paraître sur la glace.
OK, Simon, dernière question pour toi. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, puis j'ai dit, faut que je demande ça à Simon. Quel duo de joueurs de hockey tu prendrais entre Gretzky et McDavid et Sidney Crosby et Mario Lemieux?
Caroline, c'est pas juste comme... C'est une question qui c'est quasiment un pile ou face, mais écoute, si je vais me mouiller, là, si j'en prends une, là, j'ai tout le temps été un fan de Mario Lemieux. Je crois que Mario, tu sais, Wayne Gretzky, j'ai vu moins jouer, là, tu sais. Moi, j'ai grandi avec Mario Lemieux, avec ses belles années. J'ai joué contre, j'ai jamais vu un gars dominer comme ça sur la glace, peu importe qu'il y ait la rondelle, qu'il n'y ait pas la rondelle. Son fameux tir sur réception, quasiment sur la ligne des buts, sur l'avantage numérique, il ratait jamais le filet. Les jeux qu'il faisait, les passes, sa grosseur, son physique. Le monde pensait qu'il était pas rapide, mais il était rapide pareil. C'est juste qu'il paraissait moins vite à cause qu'il était 6 pieds 5, 6 pieds 6, puis il était énorme sur la glace. Puis il était le meilleur joueur présentement au monde sur la glace, qui est Sidney Crosby, qui a gagné les Coupes Stanley, mais des médailles d'or. Tandis que McDavid, oui, c'est le meilleur. Présentement, il connaît une meilleure saison que Crosby les deux dernières saisons, mais est-ce que son équipe ne fera pas les séries encore? Fait que je vais y aller avec le duo Mario Lemieux et Sidney Crosby, mais comme je te dis, là, c'est un pile ou face, là. Gretzky et McDavid, certains feraient des belles flamaches aussi comme duo là, dans une équipe. Là.
Parfait. Un gros merci, Simon.
Ça fait plaisir, Dan.
Bonne soirée à toi. Simon Gagné, ancien joueur de la LNH, il a joué pendant 14 saisons. Il nous parle chaque mercredi dans l'avant-match. Par texto maintenant, deux paires de billets pour assister au salon camping, chasse, pêche et bateau du Québec. C'est par texto au 25-226. Vous allez me dire combien de victoires en date d'aujourd'hui a Carey Price depuis le début de sa carrière.
Price vient de faire un miracle!
Donc, combien de victoires a Carey Price? Par texto au 25-226, on attribue deux paires de billets pour assister au salon camping, chasse, pêche et bateau du Québec. Et juste avant d'aller à la pause, je veux vous dire que Bianca Andreescu est sur une séquence complètement impressionnante. Elle a gagné cet après-midi contre l'ancienne championne du US Open, Garbin Muguruza. C'est une Espagnole. Andreescu a gagné. La foule est en délire, voilà. Andreescu a gagné 6-0, 6-1. Elle a 18 ans. 26e victoire cette saison pour elle. Et Denis Shapovalov, on va l'entendre chanter du rap dans quelques instants. Sachez qu'il a fait ça hier après sa victoire, mais dans les dernières minutes, malheureusement, il s'est incliné. Je vous parle évidemment du tournoi de Indian Wells en Californie.
I'm here in Cali with the fans getting hella lit. Happy with the win today. Now I got a flow to spit. Loving the support, I leave it all on the court. Fighting like a wolf, I'll be back for more. So take care and good night. Know this the good life. Hot tubs and courtside. Thursday we back, aight?
I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting the corner.
À Québec, on écoute Dan Pou. Au FM 93. Vous écoutez l'avant-match.
L'avant-match est présenté par Pièces d'auto économique. Les mêmes grandes marques qu'ailleurs, mais toujours moins chères. Pièces d'auto économique, 4 magasins dans la région et une boutique en ligne à pièceséconomique.com.
Ici PA Méthode pour Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan. Êtes-vous du genre que ça vous prend vraiment une bonne occasion pour changer d'auto? Écoutez bien l'annonce, ça se pourrait que ça fasse votre journée.
Durant les offres Mon Choix chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan, obtenez 1 500 $ de rabais sur le Rogue 2019, maintenant offert à seulement 69 $ par semaine en location sur 24 mois avec un compte de 2 995 $. Ce printemps, Mon Choix, c'est Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan.
La Fondation du CHU de Québec lance un projet rassembleur qui supporte une recherche innovante sur les commotions cérébrales. Il y a 6 vedettes qui ont accepté d'embrasser la cause. C'est François Drolet, Simon Gagné, Guillaume Rioux, Charles Fortier, Michel Laplante et Louis Garneau. Cette semaine, il y a un duel. Donc, vous, les auditeurs, vous allez supporter soit l'une ou l'autre des deux équipes. C'est Michel Laplante qui joue contre Simon Gagné dans le duel présenté sur le site Internet projetsportif.org. Vous allez faire un don et vous allez doubler vos chances de gagner un moment privilégié avec la vedette ou encore 5 000 $ offerts par Voyage à Rabais. Donc, vous donnez, admettons, 20 $ à l'équipe soit de Michel Laplante, soit de Simon Gagné, et vous doublez vos chances de gagner à la fin de la promotion. Toute l'info est sur projetsportif.org. Du 22 au 24 mars, venez voir l'élite mondiale du ski de fond sur les plaines d'Abraham pour les finales de la Coop Coupe du Monde FIS. Venez encourager Alex Hervé qui performera à la maison pour une dernière fois. Une présentation de Québécois et Le Gruyère AOP Switzerland, collaboration FM 93. Chez Quesada, tous vos plats préférés sont maintenant offerts avec le Beyond Meat, le fameux substitut de viande 100% végétalien. C'est servi avec une mayo vegan au paprika fumé. Quesada, les joies du Metz, 575 Boulevard Amel et Avenue Saint-David à Beauport.
Portes et fenêtres élites, le froid de l'hiver, la chaleur de l'été, nos experts maîtrisent. Depuis plus de 40 ans. Fenêtreélite.com.
Au centre d'ordinateur STO, il y a des spéciaux partout en magasin et en ligne, comme le portable Asus à écran de 15,6 pouces et disque de 1 Tera au prix imbattable de 399 $. Au centre d'ordinateur STO, 1415 Francarel.
De vendredi à dimanche, Caravane Marco vous fait découvrir ses modèles 2019 au complexe Capital Hélicoptère. 22 000 pieds carrés, 33 véhicules sur place, kiosque de pièces, plusieurs spéciaux. Dès vendredi, au complexe Capital Hélicoptère, route de l'aéroport. Invitation Caravane Marco, entrée gratuite.
C'est quoi déjà le nom de l'acteur? Il était dans le film, là, avec l'autre. Tu sais, il a les cheveux bruns, le nez. Ah, je me souviens plus de son nom. En tout cas, je pense que je l'ai vu à l'épicerie ce matin.
Cette histoire n'avait aucun intérêt. Mais parfois, aucun intérêt, c'est bien. Comme l'événement zéro intérêt de Volkswagen. Jusqu'au 1er avril, profitez de 0% de financement jusqu'à 60 mois sur les modèles TDI d'occasion certifiés avec l'entretien en 112 points et une garantie de 2 ans en option. Trouvez votre TDI sur vw.ca.
Volkswagen.
Rêvez, vous dites? C'est l'événement à faire rêver chez Honda de Giro. Le CRV 2019 en location 24 mois à partir de 0,99%. Honda de Giro, toujours ouvert le samedi.
Spectacle, festival, événement. Quand ça bouge à Québec, le FM 93 est de la partie.
Voyez le spectacle juste Dominique et Martin. Pas de perruque, pas de personnage, pas d'artifice, juste Dominique et Martin à leur meilleur. Avec plus de 50 000 billets vendus, les revoici en supplémentaire à la salle Albert Rousseau les 29 et 30 mars. Une collaboration du FM 93.
Les événements de Québec propulsés par le FM 93. FM 93, ça vous parle. Au FM 93, 93. Vous écoutez l'avant-match avec Dan.
OK, maintenant, on va parler avec un gars de Québec, un gars de Sainte-Foy, pour être précis, qui maintenant gagne sa vie à Montréal, comme plusieurs représentants des médias. Il y en a beaucoup qui sont de Québec et qui travaillent à Montréal. C'est Mark Griffin qui lance son autobiographie cette semaine. Lui-même, ancien joueur de baseball, maintenant analyste, évidemment, pour le réseau des sports. Vous le connaissez très bien. On le joint à l'instant au téléphone. Salut, Marc.
Salut, Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Une semaine chargée, évidemment. Une semaine, j'imagine, qui est un peu différente de ton quotidien normal. Hein?
Ça me fait penser à ma signature de contrat avec les Dodgers il y a quelques années de ça.
Okay.
Avec un peu de médias là, qui parlent de mon histoire. Mais c'est le fun. Écoute, ça fait rappeler de bons souvenirs, je te dirais.
OK. Griffin, 26. Là, il y a des gens... je vais te poser la première question que j'ai en tête, même si j'ai un doute de la réponse. Pourquoi 26?
Ben là, il faut lire le livre pour savoir ça, là. Mais j'imagine que tu as une petite idée. Parce que
j'ai un lien avec ton numéro, j'imagine?
Ben oui. Écoute, moi, j'étais un grand rêveur. Tu sais, okay. Quand j'étais petit gars, là, je jouais au hockey l'hiver, baseball l'été.
Ouais.
Évidemment, un grand fan des Nordiques de Québec, un grand fan des Expos de Montréal. Alors, je te laisse faire le lien qui pouvait être mon idole au hockey, avec qui j'ai T'sais, que j'ai voulu, les amener mes idoles avec moi tout au long de mon parcours, puis d'une manière d'amener celui du hockey, ben c'était de porter son numéro.
Peter Stachny, c'est très drôle ce que tu nous racontes ce soir, parce que sur l'heure du midi, quand j'enligne mon émission de la soirée avec mon collègue William, j'ai dit Colin, Griffin 26, Will, Marc m'a volé mon idée, parce que si un jour je fais mon autobiographie, comme moi, mes numéros marquants dans le Bantam 2C puis dans le Midget à Charlebourg, mes numéros n'ont pas marqué assez parce que j'ai pas joué à un niveau supérieur, ben probablement que je dirais Dan Pou 26 en l'honneur de Peter Stachny. Donc là, j'ai dit, ce soir, je vais poser la première question que je pose à Marc, ça va être sur l'histoire du numéro. Puis là, tu me dis, c'est Peter Stachny, donc j'aurais plus jamais d'autobiographie possible pour moi, étant donné que tu m'as volé le punch de Peter Stachny. C'est terminé.
Ben, je suis convaincu qu'il a été l'idole de plusieurs.
Oui, ben oui. Surtout notre génération.
Exact. Parce que la fougue, son comportement sur la glace, je veux dire, il y a un paquet de choses que que j'admirais de ce gars-là.
Oui.
Tout comme je l'ai fait avec des gars comme Carter et Reigns au baseball. Tu sais, c'est des gars que je voulais imiter, que je voulais être comme eux, puis ils ont évidemment une influence importante dans mon parcours.
OK, mais l'histoire du numéro, ça me fascine quand même, parce que je suis un gars de chiffres, j'ai fait les statistiques jadis au Journal de Québec. Dis-moi, ça veut dire que quand tu signes avec les Dodgers, aussitôt que c'est possible, tu prends le numéro 26?
Oh, avant ça.
OK.
Moi, je me souviens.
Avec
oui,
les Patriotes de Sainte-Foy, là.
Ben oui, ben je suis avec les Patriotes, puis le 26 était déjà pris par un excellent joueur, puis je m'étais dit, ben je vais respecter ça, tu sais, je faisais pas, là, tu sais, je ferais pas une Rolex au gars pour
avoir
le 26. Ce que je faisais, c'est que j'attendais, puis aussitôt qu'il devenait disponible, ben évidemment, je le faisais. Donc, je faisais toujours la demande au départ.
Ah, c'est bon.
Puis, écoute, puis je te dirais qu'on est, tu sais, tu portes le numéro, ben je sais pas, il y a une confiance additionnelle, il y a quelque chose de différent que lorsqu'on te donne un numéro random comme ça, puis tu comprends.
Absolument. OK, t'es un gars de Sainte-Foy. À l'époque où toi, tu frappes à la porte des majors, il n'y a pas d'ABC. Les gens qui nous écoutent actuellement, qui savent pas c'est quoi l'ABC, c'est l'Académie de baseball du Canada, qui a trouvé refuge à Montréal il y a plusieurs années. Mais à l'époque où toi, tu étais plus jeune et que tu frappais à la porte des majors, il n'y en avait pas. Est-ce que ça a été plus difficile pour toi, d'impressionner les gens des ligues majeures?
Ben, écoute, c'est sûr que si tu compares à aujourd'hui, c'est, ça n'a rien à voir. Il n'y avait même pas de midget 3, moi, à mon époque. Alors, on passait du midget 2A, puis si tu étais assez bon, tu faisais le junior majeur directement.
C'est ça.
Mais tu sais, j'ai eu des gens comme Albert Marié, qui était le directeur technique à l'époque de Baseball Québec, Albert, qui est un gars de Québec aussi. Puis lui, il m'a beaucoup aidé parce qu'il a vu un potentiel en moi. Il m'a invité à un moment donné à aller en Floride avec l'équipe du Québec pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, ce petit gars-là. Puis il a été assez impressionné qu'il m'a envoyé au camp d'équipe canadienne junior.
Okay.
Et c'est vraiment là que moi, ça a démarré mon affaire parce que, tu sais, oui, tu peux connaître un peu de succès dans le junior majeur dans la région de Québec. Et c'était super, là. Mais aller te comparer aux autres du Canada, puis aller te comparer en jouant contre l'équipe américaine, ben c'est là, moi, que ça m'a ouvert les yeux. Puis c'est là que ça m'a permis de vraiment y croire, de vraiment de me lancer là-dedans, tu sais, de foncer dans cette jungle-là que je connaissais pas du tout, mais qui me faisait saliver. Puis j'ai dit, ben regarde, on part, puis on y va.
OK. Quand tu arrives dans l'organisation des Dodgers, tu as des bonnes saisons dans les premières saisons. Je regardais tes statistiques. Tu frappes beaucoup de coups sûrs. Pourquoi, à un moment donné, Los Angeles abandonne dans ton cas?
Ben, écoute, je pense pas qu'ils ont abandonné. Au contraire, c'est parce qu'à un moment donné, tu te fais appeler puis tu te fais dire, bon, on aimerait ça que tu aies ce nouveau style-là.
Ah, OK.
Tu sais, au baseball, bon, tu sais que ceux qui jouent au golf, ceux qui jouent au baseball, tu sais, c'est de la mémoire musculaire, un élan. On frappe à tous les jours parce qu'on veut développer quelque chose. Puis à un moment donné, on me dit, ben là, on aimerait que tu changes ton style. Mais en même temps, t'as une organisation prestigieuse te demande, c'est pas à tous les joueurs qu'on demande ça, de changer un peu ton style. Alors, je me suis battu avec ça. Je me suis battu avec ce style-là pour tenter de les impressionner, mais c'était pas moi. Et je pense qu'à ce moment-là, les expos ont manifesté de l'intérêt aux Dodgers de me rapatrier, entre guillemets.
Oui.
Et là, ils en sont convenus d'une transaction, ce qui m'a amené dans l'organisation des expos de Montréal après 3 saisons dans l'organisation des Dodgers.
OK. Avec du recul, tu as 50 ans maintenant. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui te manquait pour jouer un match dans les ligues majeures?
Ben, écoute, honnêtement, ce qui me manque un peu, c'est un peu de puissance.
Okay.
Si on, il va vraiment au fond des choses, là, c'est un peu de puissance. Je pense que défensivement, la qualité de mon bras, la vitesse que j'avais, j'étais, selon moi, un joueur accompli à ce niveau-là. J'aurais pu jouer n'importe où à ce niveau-là.
Ouais.
C'est qu'au bâton, je me suis cherché un style. Lorsque j'ai joué junior au Québec ou dans l'équipe nationale, j'étais considéré comme un frappeur de puissance. Lorsque okay. je suis arrivé dans le baseball professionnel, on me transformait un type premier frappeur pour voler des buts, pour se rendre sur les buts, puis voler le deuxième, puis marquer des points. Ce qui était bien. Puis là, lorsqu'on a voulu me changer un peu comme ce qu'on appelle dans le jargon le punching Judy, donc frapper la balle au champ opposé au sol, là, ça a moins encadré dans mon style. Et je pense que si j'étais resté un petit peu plus dans le style d'un gars qu'on appelle gap to gap, donc un gars qui frappe dans les allées, je pense que j'aurais été un peu plus avancé au niveau du coup de bâton, ce qui m'aurait, selon moi, aidé davantage. Ceci étant dit, la ligne est très fine entre un gars qui réussit et un gars qui réussit pas pour toutes sortes de raisons. L'organisation dans laquelle tu te trouves, est-ce que les gens t'apprécient tant que ça? Est-ce qu'il y a des joueurs dans les lignes majeures qui tu peux pas les tasser parce qu'ils sont là puis tu signes des contrats à long terme? Alors, tu sais, il y a un paquet de facteurs qui n'est pas toujours évident.
Oui.
Mais Dan ne changerait rien. Je te dis seulement parce que c'est vrai qu'il me manquait un petit peu de puissance peut-être, mais sinon, je ne changerais absolument rien de ce que j'ai vécu dans cette histoire-là.
OK, parfait. Est-ce que dans ton livre, tu abordes le sujet du dopage? Le dopage dans le baseball avec le rapport Mitchell, ça a été évidemment délicat. Tu as joué dans les ligues mineures, tu en as côtoyé des joueurs de baseball. Est-ce que tu parles de ça?
J'en parle pas, Dan, parce que le livre, rapidement, là, c'est que le livre, je l'ai fait beaucoup pour les jeunes. Et j'explique okay. rapidement, c'est que je me suis questionné longtemps à savoir est-ce que j'ai qui, moi, pour écrire ça? Comment
oui.
je fais ça?
Oui.
Je veux pas ma face sur le cover d'un livre, c'est pas okay. vrai. Tu comprends, c'est
oui.
pas moi.
Non.
Mais lorsque j'ai trouvé le filon de l'écrire sous forme d'un récit. Donc,
okay.
c'est vraiment une histoire okay. qui est écrite au présent.
Parfait.
Les jeunes me suivent tout au long du parcours pour vraiment vivre ça. Donc, l'aspect au niveau des stéroïdes, entre autres, c'est vrai que ça commençait. Mais c'est pas une pièce dans laquelle justement j'ai embarqué parce que j'en ai pas pris, évidemment.
Non.
Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que si quelqu'un d'influent, là, si je parle d'un joueur, je sais pas, un joueur établi, un
oui.
joueur, bon, il était venu me voir à l'époque. Il m'avait dit, Marc, prends donc ça, là. Tu sais, le petit coup qui te manque, la petite puissance qui te manque, peut-être qu'avec ça, ça va marcher. Honnêtement, je peux pas dire aujourd'hui que j'aurais dit non, pas du tout, je touche pas à ça. Parce que c'était nouveau, c'était pas illégal dans le baseball à l'époque.
Oui.
Ce que Mark McGuire oui. a fait, je trouve ça très triste qu'est-ce qui lui arrive, parce
oui.
que, dans le fond, c'est le baseball majeur qu'on aurait dû taper sur les doigts et non les joueurs. Une fois qu'on a imposé les règles, là, c'est correct de taper sur les doigts des joueurs. Mais à l'époque, c'était pas illégal.
Okay.
Et de dire ici aujourd'hui, non, moi, j'en ai pas pris, c'est vrai, mais si on m'en avait offert.
Tu l'aurais considéré.
Surtout si ça avait été une personne influente, okay. je l'aurais sérieusement considéré okay. parce que, regarde, écoute, c'est ça qui te manque à me donner un petit coup de pouce.
Oui.
Mais je suis très heureux, par contre, aujourd'hui, de dire que j'en ai pas pris.
Oui, je comprends. Mais c'est intéressant quand même que tu fasses la précision. Pourquoi une autobiographie à 50 ans et non à 40 ou à 35?
Ben, c'est pas nécessairement l'âge. C'est comme, tu sais, j'ai trois garçons aujourd'hui, je côtoie beaucoup de jeunes. Et je la trouve belle, mon histoire.
Oui, absolument.
Je trouve que
oui.
c'est une belle histoire qui, tu sais, qui. Puis les gens aiment ça, des histoires. Les gens aiment ça, des belles histoires. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est multigénérationnel, cette affaire-là, parce que les gens qui ont, tu sais, les gens de ma génération, qui ont vécu les expos, qui ont écouté Jacques Doucet et Claude Raymond, qui les ont fait rêver aussi, ben, tu vas te reconnaître dans ça aussi. Mais le jeune qui va lire ça, ben, j'espère qu'il va croire en ses rêves, qu'il va foncer, puis qu'il n'y a personne qui va. Les décourager de suivre un rêve parce que, comme n'importe quel petit gars, je rêvais de jouer pour les expos, mais Caroline, c'est arrivé. Fait que, tu comprends? Alors, il y a des choses qu'on peut aller chercher de ça. Puis, tu sais, je raconte des anecdotes qui m'ont permis d'aller bon, chercher de l'expérience, des connaissances, tu sais, des entraîneurs qui sont très philosophiques. Alors, le livre est parsemé de tout ça qui en fait une histoire pour se passer.
OK. C'est drôle parce que tu dis, c'était mon rêve quand j'étais jeune, puis j'y suis arrivé finalement de jouer pour les expos, mais tu as quand même commencé par les Dodgers. Et si tu me permets ouais. un parallèle avec certains joueurs de hockey que tu connais très bien, des Pierre Turgeon, des Vincent Danfousse, des Joey Junot, des Yannick Perrault, et même des Denis Savard, des gars qui ont commencé leur carrière ailleurs et qui sont arrivés avec le Canadien par la suite. Est-ce que toi, t'aurais souhaité que ton cheminement soit inverse, débuter avec les Expos?
Ben écoute, moi j'avais le choix, puis je l'explique bien dans le livre, c'est qu'à l'époque, moi j'étais un joueur autonome. Les Canadiens vivaient au Canada, à mon époque, à cette époque-là, étaient des joueurs autonomes. Donc on n'avait pas à partir par le repêchage amateur comme aujourd'hui.
OK.
Alors, moi, la première offre professionnelle officielle que j'ai eue, c'est de la part des Expos Montréal. Et regarde, donne-moi un stylo, je signe.
Oui.
Mais mon père, à ce moment-là, qui a été un très, très bon guide pour moi, me disait, un instant, là, regarde, on a d'autres offres qui s'en viennent, prends ton temps, tatati.
C'était ton conseiller, Marc? T'avais comme pas d'agent, c'était ton conseiller, dans le fond?
Non, j'avais aucun agent. Okay. C'est mon père qui a pris un peu ça en main pour dire, ben regarde, puis je vais te dire une chose, c'est que là, je suis rentré dans la business du sport. Là, le petit rêveur, fallait le tasser de côté, puis là, on faisait affaire avec la business du sport. Okay. Et effectivement, bon, comme tu sais, les Dodgers sont venus en ville, puis les Blue Jays sont venus en ville, puis écoute, Pat Gillick s'était déplacé à Henri Cazot pour venir me voir jouer, puis Bill Stoneman était venu au stade municipal à l'époque pour venir me voir jouer. Donc, et là, ça a créé évidemment une espèce de remous, et finalement, pour avoir une offre honnêtement inattendue de la part des Dodgers, quand je dis inattendue, c'est que le montant qu'ils m'offraient était digne d'un choix de deuxième ronde. Alors là, à un moment donné, tu sais, à un moment donné, ben, et puis je t'avouerai aussi, Dan, que bon, lorsque les Expos me recrutaient, épiaient mes gestes, tu sais, il y avait toujours le doute, mais en me demandant est-ce qu'ils viennent me chercher comme
parce que je suis québécois
vraiment ou parce que je suis un Québécois. Ouais. La question se posait.
Mais oui,
Tandis que les Dodgers, ça se posait pas.
Non.
Ils sont venus ici, on s'en fout d'où tu viens, toi, c'était bon, tu sais.
Fait
qu'il y a eu cette espèce d'histoire-là. Puis finalement, eh bien, évidemment, il y avait un écart énorme dans les offres. Alors, j'ai opté pour les Dodgers, compte tenu évidemment de leur historique et de le trait-là. Mais tout est bien qui finit bien parce que j'ai été changé par la suite et j'ai pu porter l'uniforme des Expos de Montréal.
Absolument. Évidemment, je ne peux pas t'avoir en entrevue sans te parler du retour des Expos. C'est cliché, mais selon toi, qu'est-ce qui manque à Montréal pour revoir les Expos?
Il manque rien, là. Il manque juste le baseball majeur à prendre une décision. Est-ce que on fait relocalisation? Où on fait expansion. Okay. Alors, il y a deux dossiers présentement. En fait, il y a trois dossiers, je vous dirais, parce que l'autre dossier, c'est est-ce que la relocalisation avec un propriétaire qui veut rester propriétaire?
Oui.
On parle de Tampa Bay, évidemment.
Oui.
Mais c'est vrai, la balle est dans le camp du baseball majeur. Présentement, ici, que ce soit Brossman, Garber, Alain Bouchard ou Éric Boyko,
oui,
qui sont, selon moi, évidemment, un groupe d'hommes d'affaires extraordinaires, ben, à ce moment-là, si le baseball majeur ouvre la porte de l'expansion, ouais, écoute, on est là. Tu sais, je veux dire, les Expos, le commissaire l'a dit. Et Dan, si ça pouvait marcher et que pour la première fois, parce qu'en 36 ans d'histoire des Expos de Montréal, on va se le dire, là, mais on n'a jamais eu une infrastructure digne des ligues majeures.
Ah, ouais.
Et j'aimerais ça, moi, qu'on ait un stade digne de ce nom. Parce que comme tu le sais, tu connais du monde qui ont voyagé à Boston, New York, Philadelphie, ou en Californie, qui sont allés voir des matchs de balle,
ben
des
stades.
Puis tout le monde tripe quand il revient.
C'est vrai.
Ben, c'est à notre tour. Puis je suis convaincu, moi, que si on a un vrai stade, pas trop gros, ben, fun, proche de l'action, les gens vont retomber en amour de ce sport-là.
Aucun doute. Un gros merci de nous avoir parlé, très apprécié. J'invite les gens à se procurer ton livre, Griffin 26, en l'honneur, évidemment, de Peter Stachny.
Merci, Dan.
Merci, Marc. À bientôt.
Bye-bye.
Marc Griffin, un gars de Sainte-Foy, c'est fascinant de l'entendre. J'aurais parlé avec lui 2 heures, mais finalement, le temps file dans l'émission. On peut pas parler à nos invités 2 heures, malheureusement, dans ce cas-ci. Marc Griffin, qui lance son autobiographie cette semaine. Griffin, 26.
À Québec, les tripeux de sport ont le bon réflexe. Jusqu'à 19h, au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
Ici Vicky, pour Vicky vous le dit. Volkswagen offre une garantie limitée de 4 ans ou 80 000 km. Pour la plupart des compétiteurs, c'est 3 ans ou 60 000 km. La garantie Volkswagen offre donc jusqu'à 20 000 km de plus. Et ça, c'est la distance entre le Québec et l'Australie. L'Australie, c'est à l'autre bout du monde. Donc, entre la garantie de Volkswagen et celle des compétiteurs, il y a littéralement un monde de différence.
Pour plus de détails, visitez vw.ca.
Volkswagen.
Liquidation d'inventaire Matelas Dauphin. Nous liquidons les surplus de production de nos modèles de matelas les plus populaires, des centaines de dollars d'économies. Profitez de la liquidation d'inventaire et offrez-vous un matelas de qualité Dauphin à prix exceptionnel. Exemple, économisez 423 $ sur le matelas Alcove, format grand 2 places queen garantie 20 ans en liquidation à seulement 599 $. Seul Matelas Dauphin comme fabricant peut vous offrir des matelas de qualité à des prix imbattables. Matelas Dauphin, la force du fabricant depuis 1970.
Dégustez le meilleur de la terre et de la mer à L'Ophelia. Côté mer, L'Ophelia vous offre entre autres le risotto au homard, la morue d'Islande et le crabe des neiges. Côté terre, découvrez une vaste sélection de viandes, du contre-filet au tomahawk en passant par le filet mignon. Une belle façon de découvrir L'Ophelia, c'est de profiter du menu midi à prix d'amis. Dans un décor appelant un yacht de luxe, embarquez à bord de L'Ophelia. Service de valet gratuit en tout temps. Réservez dès maintenant à L'Ophelia sur Grande Allée.
À Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair, vos trois concessionnaires de la Force Kia célèbrent leurs 20 ans avec le Sportage à 25,695 ou le Sorento à 27,995. Et on rachète votre bail. Avec tous les prix remportés, c'est le temps de changer chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair.
Le 13 avril, le groupe Saga est de retour à Québec. Ils ont vendu plus de 8 millions d'albums dans le monde. Saga, le 13 avril à la salle Sylvain-Lelièvre. Billets sur lepointdevente.com. Collaboration FM 93.
Amateurs de chiens et de chats, le Salon Info Canin est de retour à Fleur-de-Lys Centre Commercial les 16 et 17 mars. Plus de 200 chiens et chats sur place. C'est un rendez-vous les 16 et 17 mars pour un autre événement signé Fleur-de-Lys.
Le plus grand choix de bateaux de pêche, de pontons et de chaloupes Princecraft, c'est pendant le Salon du bateau de Québec du 14 au 17 mars. Venez rencontrer les conseillers de Dion Moto sur place. Vos meilleures histoires de pêche commencent par Dion Moto. Dion Moto! Côte-Joyeuse, Saint-Raymond.
Solaris Québec, portes et fenêtres.
Sylvain, tout le monde le dit, l'Expo est un succès.
Ben oui, vu le succès fou de l'Expo Solaris, ils ont décidé de gâter leurs clients pour une dernière semaine.
Pour tout achat de 2 500 $ avec installation, ils payent les taxes.
Ou encore, on paye dans un an sans frais ni intérêt avec Accordé Desjardins.
Puis on profite encore du crédit Rénovaire allant jusqu'à 10 000 $.
Mais c'est le temps ou jamais, ça se termine ce samedi. Après, il sera trop tard.
Solaris Québec, porte et fenêtre.
Au 710 rue Bouvier.
Avec le Trio Ford aussi. On fait de tout client tout un gagnant.
Petit format, compétence énorme. Le VUS EcoSport SE 2018. 4 roues motrices se louent 7 semaines à seulement 155 $ aux 2 semaines en location de 48 mois. 155 $ aux 2 semaines. Zéro comptant requis. Détails de cette offre sur place. Desjardins Auto Collection, Sainte-Foy Ford ou l'Ange Gardien Ford.
C'est facile d'embarquer avec Ford.
À Québec. Oh yeah. Les tripeux de sport ont le bon réflexe. L'avant-match. FM 93. Ça me parle.
Are you ready for some football?
Dans l'avant-match.
Le football de la NFL avec William Boivin.
FM 93.
Major breaking news. Odell Beckham traded from the New York Giants to the Cleveland Browns. We are, but Beckham is gone, and John Dorsey is all in right now to build this thing around Baker Mayfield. He has got his number one wide receiver.
Odell Beckham Jr. down the sideline for the touchdown.
Vous rêvez pas, on va parler de football un 13 mars parce qu'il y a beaucoup de nouvelles dans les derniers jours qui ont frappé la NFL. Et celle que vous venez d'entendre, la plus récente, c'est Odell Beckham Jr. qui est passé en début de soirée hier des Giants aux Browns. Et les Browns, c'est l'équipe préférée de Will qu'on reçoit à l'instant. Salut Will.
Salut Dan.
J'ai Antonio Brown le week-end dernier. J'ai Nick Foles en début de semaine qui signe avec Jacksonville. Ouais. Odell Beckham, on vient d'en parler. Puis Le'Veon Bell qui avait fait la grève à Pittsburgh qui signe 4 ans pour 52,5 millions. Je te laisse l'ordre sur laquelle tu veux t'arrêter sur ces nouvelles-là.
Écoute, il y a de l'action dans la NFL. Et depuis 16 heures officiellement, la saison 2019 de la NFL est démarrée.
Okay.
Depuis 16 heures aujourd'hui. Mais depuis lundi, c'est un peu l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Fait que c'est pour ça que vous voyez toutes sortes de joueurs de la NFL changer d'adresse. Là. Écoute, le clan Panton est même pas capable de fournir tous les joueurs de la NFL qui veulent changer d'adresse actuellement.
Okay.
On dira un méga repêchage d'expansion avec 32 nouvelles équipes, Dan.
Mais oui, à la différence de la Ligue nationale d'hockey, le 1er juillet, c'est uniquement des signatures.
Ouais.
Là, cette semaine, dans la NFL, il y a également des transactions.
Oui, effectivement. Mais tu sais, également, on peut faire le parallèle, Dan, avec la Ligue nationale d'hockey. Il y a des grosses transactions qui se produisent durant l'année dans la Ligue nationale.
Oui.
On en a eu il y a quelques semaines avec la date limite des transactions. Oui. Au football, c'est assez rare, des transactions durant l'année. Et quand tu embarques dans une équipe avec un cahier de jeu, des entraîneurs, tu sais, il n'y a pas beaucoup de changements dans la NFL durant la saison, autant au niveau des joueurs que des entraîneurs. Mais ça se produit après la saison. Là, on a eu la valse des entraîneurs-chefs. Par la suite, c'est les joueurs autonomes. Donc, il y a beaucoup d'actions.
Là, tu vas t'arrêter sur les quatre gros noms que j'ai mentionnés, mais est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines semaines à avoir d'autres transactions importantes?
Oui, absolument. Absolument. Les gros noms, je te dirais, ont quand même été transigés, ceux qu'on voyait changer d'adresse. Et également, les gros joueurs sur le marché des joueurs autonomes ont signé également. On parle de Le'Veon Bell, Nick Foles et quelques d'autres. Écoute, Odell Beckham Jr. qui change d'adresse hier, c'est pas si surprenant que ça. Par contre, quelle immense transaction pour les Browns de Cleveland. Il y a les équipes dans leur section, les Steelers, les Ravens et les Bengals sont en train de s'affaiblir en perdant plusieurs joueurs. Donc, on a décidé, nous, d'y aller all-in, comme on l'a entendu dans l'extrait, du côté des Browns de Cleveland. Et on va chercher un gars qui est très populaire, autant sur le terrain que parmi les fans de football, mais qui est un gros cas à gérer. Il y a un immense ego, Odell Beckham Jr. Et bon, mais je pense qu'il arrive dans une situation idéale à Cleveland. Puis ceux qui me connaissent, Dan, le savent que moi, je détestais, là maintenant, je parle au passé, détestais profondément Odell Beckham Jr. pour le personnage qu'il est, son attitude, son ego. Mais là, j'ai changé mon fusil d'épaule quelque peu depuis hier soir. Oui, mais surtout, je pense qu'il arrive dans une situation idéale avec son ancien co-chambreur Jarvis Landry, avec qui il jouait à l'université, son ancien entraîneur à LSU. Il connaît Baker Mayfield et surtout, il aura le goût de jouer pour les Browns et pour Baker Mayfield. Ce n'était plus le cas pour Eli Manning à New York. Alors, je pense vraiment que les Browns ont frappé un coup de circuit avec l'acquisition d'Odell Beckham Jr., qui est un des meilleurs receveurs de passe dans la fleur de l'âge.
Puis d'avoir donné un choix de première ronde et un choix de troisième ronde et un autre joueur, c'est pas grave?
Payé très cher.
Très cher.
Mais pour un gars qui a 26 ans.
Qui a du talent.
Qui est parmi les trois meilleurs à sa position dans la ligue, c'est ce que ça coûte. Puis je suis content qu'on ait payé le prix parce que là, les Bruns sortent enfin de leurs années brunes pour avoir des années roses. Maintenant, on sort de la médiocrité puis on prouve vraiment qu'on arrive parmi les bonnes équipes dans cette ligue.
On donne de la crédibilité à l'organisation. Est-ce que tu peux comparer ce receveur de passe-là à l'ancien receveur de passe qui avait des agents dans les points de presse, là, l'ancien des Cowboys?
Ah, Terrell Owens.
Oui,
quelque peu.
Talentueux, mais difficile à gérer.
Oui, difficile à gérer, effectivement. Mais quand tu les places dans des situations gagnantes, avantageuses pour eux, où ils sont, en quelque sorte, le centre de l'attraction...
Ils peuvent changer un match à eux seuls.
Mais tu les combles en leur passant le ballon, en faisant les touchés.
Ils sont contents.
Ça fonctionne.
Okay,
là, ça ne fonctionnait plus à New York avec Eli Manning. Les Giants sont en reconstruction. Je pense qu'avec les Browns, Baker Mayfield, ils arrivent dans une situation idéale. Okay. Et je suis convaincu, même si on a payé cher, que ça va rapporter pour les Browns.
OK, Nick Foles qui signe à Jacksonville, moi je suis content pour lui.
Moi aussi, je suis content. Les Gonz, on l'a laissé aller. On lui laisse la chance d'être numéro un dans cette ligue-là. On a donné beaucoup, mais beaucoup d'argent pour Nick Foles. Par contre, Dan, 22 millions par année pour les quatre prochaines saisons. Il y a 16 matchs dans la NFL. Là. C'est quasiment 2 millions par match.
Ouais.
Mais écoute, Nick Foles a prouvé qu'il était capable d'être carrière numéro un. Est-ce qu'il sera capable de faire gagner les Jaguars de Jacksonville? On le verra dès la saison prochaine. La première expérience de Nick Foles comme carrière numéro un n'a pas été très concluante.
Okay.
Mais par contre, je pense qu'il arrive mieux préparé, mieux outillé dans une équipe qui le voulait, les Jaguars. Alors là, on lui déroule le tapis rouge et quand il est apprécié puis aimé souvent, ben les résultats sont un peu plus probants. Alors je pense que c'est une bonne situation pour Nick Foles.
Et on pourrait faire un parallèle entre Jacksonville et Cleveland. On redonne un peu de crédibilité à l'organisation.
Exactement. On sort des années de misère pour tenter de revenir dans la course aux séries puis avoir des bonnes années. Puis tu sais, justement, ces partisans-là, puis j'en suis un, on a mangé notre pain noir au courant des dernières années, mais quand on voit la lumière au bout du tunnel, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire le nécessaire pour continuer à améliorer notre équipe? C'est ce que les Browns ont fait, les Jaguars aussi.
Antonio Brown qui s'en va à Oakland. c'est le receveur de passe. C'est Le'Veon Bell aujourd'hui qui signe avec les Jets.
Ben oui.
Il va-tu rester des joueurs à Pittsburgh?
Ben, pas beaucoup. Pas beaucoup. Et là, on perd ces deux joueurs étoiles-là pour seulement un choix de troisième ronde et de cinquième ronde. C'est ce qu'on a reçu en retour d'Antonio Brown. Et Le'Veon Bell, ben, on le perd pour absolument rien. Ouais. Par contre, Dan, je pense que c'est quasiment une bonne chose pour les Steelers.
Ah,
c'est des princesses, des divas, des bébés gâtés, ces deux gars-là. T'sais, allez-vous-en ailleurs. Puis on va rebâtir. Je pense pas que les Steelers vont être bien, bien compétitifs dès la saison prochaine.
Mais dans le vestiaire, ça va être plus le fun.
Dans le vestiaire, ça va être plus le fun. Puis je suis pas convaincu qu'Antonio Brown y arrive dans un bon état d'esprit avec les Raiders. Il se prend pour 26. Ça passe pas dans le cadre de porte.
Okay.
On verra comment John Gruden pourra gérer ça. Puis Le'Veon Bell, qui finalement fait la grève pour avoir seulement 2 millions de plus d'argent garanti, contrairement à ce que les Steelers lui offraient la saison dernière.
Il aurait dû dire oui.
Ben, il est mal conseillé, puis je pense que c'est pas Sacha Gavami qui est son agent, en tout cas.
Non, il devrait l'embaucher.
Il devrait l'embaucher, Sacha.
Parfait, merci Will. Il y a énormément d'action dans le monde du sport à Québec ces jours-ci. Vous le savez, les Remparts vont terminer leur saison en fin de semaine, après quoi ce sera les séries. Il y a le championnat canadien de volleyball masculin au PEPS en fin de semaine. Ça débute vendredi. Mais pour l'instant, je veux m'attarder au championnat canadien de basketball féminin parce que, comme moi, peut-être vous avez regardé la finale des filles du Rouge et Or dimanche dernier en direct de Toronto. Elles se sont malheureusement inclinées contre McMaster. Mais à compter de demain au Cégep Sainte-Foy, il y a un événement d'envergure et je vais être là demain soir 18h30 pour le match d'ouverture des Dynamiques. Championnat canadien de basketball féminin, c'est pas tous les ans qu'on reçoit ça dans notre région. On en parle à l'instant avec Christian Comtois, qui est coordonnateur des activités sportives au Cégep Sainte-Foy. Bonsoir, Christian.
Bonsoir, Dan.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Oui, ça va bien. J'imagine que vous êtes occupé. Il y a de la grande visite en ville pour vous. Vous devez les accueillir. À partir de quel moment on décide d'embarquer dans un cahier de charge puis de dire, OK, nous, à Sainte-Foy, ça nous tente de recevoir le championnat canadien 2019?
Je vous dirais franchement, ça fait à peu près deux ans.
On savait que
c'était à notre tour, c'était au tour du Québec de recevoir le championnat canadien. On en a parlé en équipe parce qu'on sait que c'est beaucoup beaucoup d'organisations.
Ouais.
Donc, lorsqu'est venu le moment de poser notre candidature, ben la direction a embarqué avec nous dans le projet parce que l'expérience qu'on a eue en 2009, là, 10 ans. A été très positif pour nous, pour le basketball dans la région aussi, puis c'était comme un incontournable de redéposer notre candidature, malgré que c'est énormément de travail, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup d'effets positifs là pour notre programme puis pour le basket. Donc, c'était... voilà deux ans, on a commencé à y penser, on a déposé notre candidature, puis on travaille depuis un an environ. Là.
OK, depuis un an, de façon un peu plus importante.
Absolument, oui.
Dites-moi, Christian, qu'est-ce qu'on vous demande particulièrement? Je sais que vous l'avez déjà fait en 2009, là, mais les auditeurs à l'écoute ce soir de mon émission sont pas au courant des exigences imposées par le sport intercollégial canadien.
Ben, grosso modo, lorsqu'on organise un championnat comme ça, il faut s'assurer que toutes les équipes qui vont être sur place, ben d'abord doivent être logées.
Oui.
Donc on a des ententes avec les hôtels. C'est aussi pour tout ce qui est les équipes qui sont autour de chacune des équipes, donc les entraîneurs, il va y avoir aussi les arbitres. On doit avoir des places aussi pour les spectateurs aussi qui vont venir de partout. On parle de partout au Canada, donc il y a des spectateurs aussi qui vont suivre.
Oui.
Il y a des exigences aussi minimales qu'on doit respecter pour le gymnase. Donc, on doit avoir un minimum de places assises pour accueillir les spectateurs. Après ça, faut avoir les installations autour aussi pour les arbitres, pour les équipes d'entraîneurs et tout ça dans l'établissement.
Okay.
Donc, c'est un peu tout ça dans le fond. Puis le reste, en collaboration avec les gens de l'Association canadienne, collégiale canadienne, dans le fond, on travaille pour que le reste, là, avec pour ce qui est des règles et tout ça, mais ça c'est en collaboration avec eux autres, dans le fond, là, qu'on établit ça, puis qu'on s'assure d'avoir le minimum, le maximum plutôt, vraiment le maximum des exigences là, pour les matchs. Là.
Vous aviez pas, dans les dernières années, un projet de rénovation du gymnase également?
Oui, absolument. Ben depuis deux ans, trois ans même, là, on a ajouté des gradins rétractables dans notre gymnase principal où on reçoit nos matchs de basketball. Fait que déjà, ça a fait un grand changement dans le fond dans les infrastructures pour recevoir le championnat canadien. On a tout rénové également là, nos installations de notre deuxième gymnase en bas, parce que durant la semaine que les équipes sont là, il faut qu'ils pratiquent aussi dans le deuxième gymnase, okay, pendant qu'on reçoit les matchs là en haut. Okay. Donc ça aussi là, dans le fond, on s'est refait une beauté, c'était le temps, puis on offre quelque chose de vraiment intéressant pour les équipes.
Parfait. Au niveau sportif maintenant, évidemment, on peut appliquer pour un tournoi comme ça, mais faut peut-être faire aussi un petit meeting de 15 minutes avec le coach pour essayer qu'il s'enligne pour être compétitif. Parce que si on reçoit un événement comme ça, puis notre équipe n'est pas de taille, c'est un peu moins vendeur pour la population de Québec. Vous êtes assuré avec l'entraîneur-chef de l'équipe féminine que l'équipe allait être compétitive en 2019, j'imagine?
Ben oui, du fait qu'on le savait depuis au moins 2 ans, nous, on s'est aligné pour essayer d'avoir la meilleure équipe possible. D'ailleurs, okay, cette année, on a terminé au premier rang, oui, de la saison régulière. Oui. On a trébuché un peu au provincial, par contre, oui, mais si on regarde un peu dans l'histoire... ouais, vous avez vu ça. Ouais. Mais si on regarde un peu dans l'histoire là, de nos championnats canadiens, on a gagné 4 championnats. Et c'est arrivé juste une fois qu'on a remporté le championnat provincial, okay, sur les 4 championnats canadiens. Bon. Fait que pour nous, on n'est pas en terrain inconnu. Puis les espoirs sont toujours là quand même.
Okay.
Puis si on se fie un peu sur notre saison régulière, on a eu seulement 2 défaites, puis on est terminé première. Fait que pour nous, tout est encore là. C'est certain qu'on va rencontrer les meilleures équipes du Canada. Fait que ça se joue sur le terrain. Notre préparation est là. On connaît notre terrain à nous. On connaît nos forces. Maintenant, il s'agit de mettre ça ensemble pour donner les meilleures performances sur le terrain après ça.
Parfait. Un gros merci à vous. Bon championnat.
Ben merci. Ça fait plaisir.
Merci, Christian. Christian Comtois est responsable des activités sportives au Cégep de Sainte-Foy. Demain, 18h30, le premier match de l'équipe locale, les Dynamiques du Cégep Sainte-Foy. Je vais être là pour aller voir ça demain. Championnat canadien de basketball féminin. Et à l'instant, on vous offre un laissez-passer double pour tout le week-end. Demain, vendredi et samedi. La finale est samedi soir, 20h. Donc, à l'instant, le troisième appel, 418-670-9330, gagne un laissez-passer double pour les championnats présentés au Cégep Sainte-Foy. C'est tout pour l'émission L'avant-match de ce soir. Je vous dis bonsoir. Merci.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93. Ça me parle.
L'avant-match est présenté par Pièces d'auto économique. Les mêmes grandes marques qu'ailleurs, mais toujours moins chères. Pièces d'auto économique, 4 magasins dans la région et une boutique en ligne à pièceséconomique.com.
Un ami m'appelle pour dîner? On va à l'atelier. J'ai quelque chose à fêter? Je vais à l'atelier. C'est pas compliqué. Je suis toujours rendu à l'atelier. Pour le 5 à 7, il y a des spéciaux sur tous les types de drinks à 6, 5 et même 4 $. Et vous devez essayer un de leurs cocktails préparés par leur mixologue. Vous êtes indécis? Ils vont en préparer un à votre image. Ils en ont même créé un pour moi, le conservateur. Vous comprenez pourquoi je suis toujours rendu à l'atelier. Le bistrot L'Atelier sur Grande Allée.
Chez Rona, on est là pour que vous passiez de...
Notre salle de bain!
À...
Notre salle de bain!
Jusqu'à mercredi, chez Rona, c'est l'événement salle de bain. Obtenez 20% de rabais sur les toilettes, lavabos, pharmacies.